ravi de vous retrouver ce mercredi 8 septembre 2021 pour l'édition de 17h. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir à travers nos 47 radios partenaires. Au micro, je suis Rukai Top Draman. Au sommaire de ce journal, le Niger compte 70% d'analphabètes selon les statistiques officielles. À l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation ce 8 septembre, à suivre dans ce journal les défis qui se posent à ce secteur au Niger. Ouverture ce matin d'un symposium international sur la paix organisé par le comité des jeunes filles leaders sur le thème « Jeunes filles actrices de paix au Sahel ». On parlera encore d'alphabétisation dans la partie magazine de ce journal. Le docteur en anthropologie Mohamed Korou explique l'apport du numérique dans la vulgarisation de l'alphabétisation. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée dans le monde tous les 8 septembre. Elle vise à augmenter le nombre de personnes sachant lire, écrire et compter. Le Niger compte 70% d'analphabètes selon les statistiques officielles. Madame Achabi Kajima, directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, parle des défis de l'alphabétisation au Niger. Elle est jointe au téléphone par Talat Abdoubahar.
Le défi que l'alphabétisation doit relever, c'est le défi du système éducatif dans sa globalité. L'alphabétisation faisant partie du système éducatif nigérien, l'alphabétisation n'est pas épargnée des insuffisances et difficultés que le système a rencontrées, a enregistrées ces dernières années. Donc le défi, c'est le défi de couverture et aussi le défi de qualité. C'est un terrain où interviennent plusieurs types de partenaires. Malgré les dispositifs qu'on a mis en place, jusque-là, on n'a pas pu fédérer toutes ces interventions. On n'a pas pu les amener à respecter les normes en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Pour que tous ces partenaires s'adressent au niveau des services de l'État pour pouvoir respecter les normes.
La compagnie minière Dakuta Komina, qui exploite l'uranium à Arlit, une filière du groupe nucléaire français Orano, a fermé sa mine depuis le 31 mars 2021 dans le nord du Niger. Cette fermeture a entraîné le licenciement de 600 salariés et 800 sous-traitants. L'école des mines de Lahir et Mahir, un établissement public qui forme les futurs cadres miniers du Niger, est aussi impactée par cette décision. Adoum Bonjebou, directeur de l'EMAIR, au micro d'Anissé Karim.
L'école des mines de Lahir a été créée en 1975 pour alimenter ces sociétés minières Cominax Somaïr en cadre moyen des filières des mines. Les élèves font les stages de fin d'année et les stages pendant l'année scolaire dans ces sociétés minières, les sorties pédagogiques aussi. Et le produit de l'EMAIR même, en tout cas, beaucoup sont utilisés au niveau de ces sociétés en termes d'emploi. Donc vous voyez le manque à gagner à l'endroit des élèves. Il y a moins de mois, on a visité les sites, ils sont au stade de démantèlement. On a donc amené nos requêtes, que la ministre elle-même, il y a à peu près un mois et demi, était de passage, elle a parlé de l'EMAIR qui a été créé pour ces sociétés. Qu'est-ce qui sera fait pour elle? On a vraiment discuté. Ils nous ont dit que quelque chose pourrait être fait pour les Mahir, mais ça sera progressif. Les inquiétudes des étudiants, c'est que tout ce dont j'ai parlé en haut, à savoir les stages, les sorties pédagogiques, et l'emploi même, il y aura des difficultés à ce sujet.
Jeune fille actrice de paix au Sahel est le thème d'un symposium international sur la paix et la sécurité au Sahel ouvert ce matin à Niamey. Il est organisé par le comité des jeunes filles leaders COGEFIL sous le parrainage de la médiature de la République. Jamila Barkié, la responsable paix et sécurité au Sahel du COGEFIL, s'exprime au micro de Zainab Abdoussaïdou.
REPAS, c'est un ensemble de projets, d'activités. La première était des caravanes de sensibilisation dans trois régions, Tawa, Tillaberi et Diffa. Ensuite, un renforcement de capacité à Niamey qui a réuni 20 jeunes filles de toutes les régions du Niger. Et troisième et dernière activité, le symposium. Pourquoi jeunes filles actrices de paix? Parce que nous voulons impliquer directement ces jeunes filles-là dans le processus de restauration de la paix au Sahel. Nous voulons échanger, discuter et avoir des solutions entre jeunes filles. Parce que les filles sont les couches les plus vulnérables en cas de conflit. Les pays hôtes, c'est les pays du G5 Sahel, Tchad, Burkina, Mauritanie, Mali et Niger. À travers ce symposium, nous voulons que ces jeunes filles partagent leur expérience, leur vécu, ce qui se passe dans leur pays, à quels problèmes ils sont confrontés sur la question sécuritaire et qu'ensemble, on soit unis entre pays de G5 Sahel pour trouver des solutions. Au sortir de ce symposium, nous comptons faire des recommandations et des plaidoyers.
Les populations de la commune rurale de Karma, région de Tillabéri, font face à une épidémie de choléra depuis la fin du mois d'août, indique le maire. Des dispositions ont été déjà prises par les autorités sanitaires pour contenir l'épidémie, a souligné le premier responsable de la municipalité. Abbas Diallo Yakouba, maire de Karma, joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Ça a déclenché dans le CSI de Koutkale où on a eu le premier cas. Malheureusement, il est décédé. Ça n'est suivi 10 autres cas, dont il y a eu encore aujourd'hui un décès. 6 guéris et les 2 sont en observation. Le lundi, il y a aussi 6 cas à Tagbati. Après le premier cas, on a informé le district sanitaire de Kolo. Très rapidement, une équipe est venue. Ils ont fait les hangars pour isoler les malades et ils ont amené les produits, les solutions notamment. Donc vraiment la prise en charge elle est totale. Maintenant pour la commune on a amené notre contribution parce que hier il y a eu rupture de solité, on a acheté. Pour la sensibilisation on est en train de faire de notre mieux. On a beau parler, vraiment les riverains du fleuve ont du mal à se passer du lot du fleuve. Il y a toute une équipe de sensibilisation mais malheureusement nos gens sont têtus.
La région de Maradi n'a pas enregistré officiellement de nouveaux cas COVID-19 depuis 6 mois selon le ministre de la Santé en visite dans la région. Un bon signe selon lui, toutefois il faut rester prudent avec l'arrivée du variant Delta. C'est pourquoi le ministre a déclaré que Maradi, de par sa position de capitale économique du Niger, donc de brassage de population, sera privilégié en termes d'approvisionnement de vaccins. Docteur Ilia Soumaï Nassara, ministre de la Santé, au micro de Mohamed Mama.
Cette fois-ci, on a dit d'orienter beaucoup de vaccins vers Maradi. C'est la capitale économique. Il y a trop de brassage et la population est importante. S'il y a une proportion importante de la cible qui est vaccinée à Maradi, on arrive à avoir à Tawa, à Zender, on peut prétendre avoir même l'immunité collective. J'attire l'attention de tous les agents à tous les niveaux à s'impliquer dans la vaccination contre la COVID-19. Les vaccins sont disponibles. On a Sinopharm, on a AstraZeneca, on a Johnson. Bientôt, on va avoir le vaccin Pfizer. On va encore réceptionner Sony Pharm. Si aujourd'hui, on a la capacité de consommer, en un mois, on peut réceptionner, je pense, sous le contrôle de l'OMS, qui est dans la facilité COVAX, jusqu'à 2 millions de doses de vaccins. Donc, il faut qu'on sensibilise pour que les gens soient vaccinés. Maradi, aujourd'hui, a fait pratiquement 6 mois sans enregistrer des cas de COVID. Mais il ne faut pas aller dormir, hein, surtout avec l'avènement du variant Delta.
Connaître et comprendre son groupe sanguin est très nécessaire d'après Li Moussa, responsable de promotion don de sang au Centre national de transfusion sanguine CNTS de Niamey. C'est pourquoi son institution sensibilise la population non seulement sur le don de sang afin de sauver des vies, mais aussi invite les personnes à connaître leur groupe sanguin. Il explique au micro de Salamat Kadiri.
Même en cas d'accident ou au besoin d'une transfusion sanguine, quand vous connaissez votre groupe sanguin, on gagne du temps. Parce que dans certaines situations critiques, vraiment 2 ou 3 minutes, la personne peut partir. Le temps même qu'on fasse le groupage pour connaître quel est votre groupe, la personne peut passer. Deuxièmement, il y a différents groupes sanguins. Notamment, il y a le O, le B, le AB et le A. Mais tous ces groupes-là ont ce qu'on appelle les rhésus. Donc, soit plus ou bien soit moins. Et il y a une certaine compatibilité entre les groupes. Il y a des groupes qui ne peuvent pas donner à certains. Il y a des groupes qui peuvent donner à tout le monde, tels que le O moins, c'est ce qu'on appelle le donneur universel. Et le AB plus, lui, c'est le receveur universel. Donc, en règle générale, le moins donne au moins et au plus. Mais le plus, lui, il ne doit donner qu'au plus seulement.
Rencontre hier entre les syndicats des taxis-motos d'Ilela du Nigeria avec ceux de Birnin Kwani au Niger. L'objectif de celle-ci est de trouver des solutions à la décision des autorités nigériennes d'interdire la circulation des motos entre les deux frontières au-delà de 18 heures. Issia Ouka, le président du syndicat des taxis-motos Kabu Kabu de Kwani, au micro d'Asumana Moussarzika.
Nos camarades ont dit qu'une décision interdisant aux taxis-motos de franchir la frontière à partir de 18h a été prise. Eux, ils respectent cette mesure, mais ceux du Nigeria ne la respectent pas. Je leur ai dit, puisqu'on se comprend bien, je vais aller me renseigner davantage. Ils m'ont dit que cette mesure devrait entrer en vigueur à partir d'hier et ils nous ont donné un papier pour informer tout le monde d'avance. Ils ont précisé que la mesure durera 2 semaines seulement. Pendant cette période, code, un conducteur de taxi moto ne doit pas prendre deux passagers. Il ne doit pas prendre une personne enturbanée. Il ne doit pas aussi transporter un bidon contenant du carburant. Nos gens respectent la loi. Ici au Niger, dès que les autorités prennent une décision, le citoyen la respecte. C'est pour deux semaines seulement. Ça va passer.
Parlons sport dans cette édition ouverture ce 8 septembre à Niamey du championnat national des personnes handicapées du Niger. C'est la toute première édition et les compétitions sportives débuteront demain. Ce championnat rassemble toutes les régions du Niger et comprendra plusieurs disciplines sportives. Aboubakar Mambouku, président du comité d'organisation, explique pourquoi la tenue d'un tel championnat au Niger. Il est au micro de Faisal Boubacar.
Nous avons organisé ce championnat pour nous permettre vraiment de promouvoir le sport des personnes handicapées et de détecter les talents. Nous avons constaté que les gens méconnaissent le sport des personnes handicapées. Vous n'êtes pas seul de savoir que ce qui s'est passé à Tokyo a émerveillé tout le monde avec le Paralympique. Donc c'est ce qui nous a dit, il faut qu'on se base vraiment sur nos athlètes qui sont ici, qui ne connaissent pas le sport des personnes handicapées pour le promouvoir et que les gens connaissent ce sport-là. Le championnat, c'est sur deux principales disciplines. Il y a l'athlétisme et le volleyball assis. L'athlétisme, là, nous avons scindé ça en plusieurs disciplines. Comme le 100 mètres, il y a le lancer poids, le lancer de javelot, il y a le saut en hauteur. Donc pour les compétiteurs, vraiment nous les appelons à la discipline. Nous savons que vraiment c'est une compétition, on sait que vraiment chacun veut gagner, mais nous les appelons à la discipline. Quel est le meilleur gagne ?
C'est la partie magazine de cette édition. Chaque année, le 8 septembre est déclarée Journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, le thème retenu est misé sur le numérique pour réduire les inégalités dans l'apprentissage. Quel est l'apport du numérique dans la vulgarisation de l'alphabétisation à travers le monde et surtout dans les pays en voie de développement? Mohamedou Koro, docteur en anthropologie, explique au micro de Mama Ada.
L'alphabétisation, c'est une manière de former et d'éduquer des gens sur un mode d'écriture qui leur est soit familier ou bien étranger. Et par ce biais-là, ils peuvent maîtriser, apprendre, c'est-à-dire qu'ils peuvent immortaliser. Ils peuvent par ce biais se développer et en même temps mieux se préparer pour affronter l'avenir avec un peu plus de bonheur.
Pourquoi une telle journée internationale de l'alphabétisation ?
Célébrer cette journée, cela rappelle justement ces biais-là et interpelle les autorités politiques, administratives, les ONG et autres associations qui œuvrent dans ce cadre-là, de consacrer beaucoup plus d'efforts pour faire en sorte que cette majorité qui est exclue de ce système-là puisse quand même retrouver son droit, parce que la formation, l'éducation, c'est aussi un droit pour tous.
Et miser sur le numérique pour réduire les inégalités dans l'apprentissage, pourquoi un tel thème?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde des affaires, le numérique joue un rôle prépondérant. Et au niveau de l'Afrique, on ne sait pas si ce numérique-là est susceptible de jouer ce rôle prépondérant tel qu'il le fait dans les pays européens, dans les pays occidentaux, pour la simple raison que l'analphabétisme, justement, est de mise. À travers l'usage de cet instrument, il y a des échanges fructueux d'informations, d'images qui circulent d'un village à un autre, d'une ville à une autre, et ainsi de suite. Et ce numérique est aussi un instrument de formation, un instrument d'alphabétisation. Donc, on peut utiliser valablement ce numérique-là pour former, pour alphabétiser la population.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Ali Tajissir pour le journal en tamashek.